l'évangile de Luc, au chapitre 18, à partir du verset 35, pour ceux qui veulent suivre la lecture. Luc 18, 35. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin en train de mendier. En entendant le bruit de la foule qui passait, il demanda ce que c'était. On lui répondit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Alors il se mit à crier très fort : « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Ceux qui marchaient en tête du cortège le rabrouèrent pour le faire taire, mais lui criait de plus belle : « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et ordonna qu'on lui amène l'aveugle. Quand il fut près de lui, Jésus lui demanda : « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit : « Seigneur, fais que je puisse voir. » « Tu peux voir, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. » Et aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus en louant Dieu. En voyant ce qui s'était passé, toute la foule se mit aussi à louer Dieu. Un aveugle, nous dit le texte, et on ne sait rien de plus. Aucune idée de son âge, par exemple. L'évangile de Marc nous donnera un prénom, un Bartimée. Nous entendons son cri, nous entendons les mots qu'il échange avec Jésus, et pour le reste, silence. Nous n'avons que ce qui compte pour l'histoire racontée. On aimerait savoir davantage, on aimerait savoir par exemple pourquoi est-ce qu'il qualifie Jésus de fils de David. Pour nous l'expression ne veut peut-être pas dire grand chose, mais c'était une expression messianique, puisqu'elle renvoie à une promesse antérieure de 1000 ans auparavant, d'un descendant, donc une promesse faite à David, qu'un de ses descendants occuperait un jour le trône, que son règne n'aurait pas de fin. Donc comment, pourquoi cet aveugle, quand on lui dit Jésus de Nazareth, est-il en mesure de dire « C'est lui, le fils de David. » Silence du récit. Mais ce que nous entendons, au moins dans le cri, c'est que cet homme comprend à qui il a affaire. Peut-être, ou en partie, en contraste avec les disciples de Jésus eux-mêmes, ceux qui savent, ceux qui ont l'information en direct, qui vivent avec Jésus, et donc Jésus les informe, et donc ils savent en direct, ils peuvent se faire une idée de premier plan de qui est Jésus, de ses projets. Mais dans le récit qui précède, juste dans le récit qui précède, ces mêmes disciples qui ont tout pour voir, si je puis dire, ont une difficulté, mais immense, à entendre, à se faire une idée, à appréhender ce que Jésus leur dit de lui. Puisqu'il leur annonce sa mort, et ses plus proches, lisons-nous, ne comprirent rien à tout cela. C'était pour eux un langage énigmatique, et ils ne savaient pas ce que Jésus voulait dire. Notez l'insistance, ils ne comprirent rien, c'était un langage énigmatique, et ils ne savaient pas ce que Jésus voulait dire. C'est avec ça, nous, on n'a pas compris, hein. Je ne sais pas ce qu'il nous faut. Ceux qui voient ne voient pas toujours très clair, et réciproquement. Je glisse une petite anecdote. Je me souviens de mon premier stage de communication non violente. C'est reparti pour la pub pour la communication non violente. Et parmi les stagiaires, il y avait un aveugle. Il y avait un exercice de, enfin, je ne sais plus ce que c'était, mais donc c'était moi qui étais en position, qui cherchais à exprimer quelque chose. Et je me souviens de la lucidité avec laquelle il saisissait ce qui se passait. Je n'étais pas sûr de ce qui se passe. J'étais pas sûr de moi, il y avait il y avait quelque chose qui était de cet ordre-là, et lui l'a dit. mais juste le son de la voix. Il pouvait décrire de manière exacte la posture qui était la mienne. Et la posture dont je n'étais pas conscient. C'est ça qui est intéressant. C'est aussi ça qui est intéressant. Donc, ce qui voit ne va pas toujours clair, et réciproquement, et nous qui pensons y voir clair. Un aveugle donc. Une foule qui passe, et qui attire l'attention, de l'aveugle en tout cas, entre autres, et une foule qui fait obstruction, qui veut détourner l'attention. Pourquoi ? Silence à nouveau. Et Jésus qui s'arrête. Jésus qui voit la foi de cet homme, là encore, silence, est-ce que c'est au travers des mots qu'il prononce ? Est-ce que c'est parce que Jésus a une certitude intérieure, voilà, qu'il voit en lui ? Silence. Jésus qui prononce la parole de guérison, la parole de salut, la traduction que j'ai choisie, « Parce que tu as cru en moi, tu es guéri », on pourrait traduire « Tu es sauvé ». Et Jésus qui se présente à nouveau comme un homme, qui n'est pas tout à fait comme un homme ordinaire, qui est un peu plus qu'un homme, qui donne ce que les hommes ordinaires ne peuvent pas donner, ou pas donner comme ça, sur le champ, juste une parole prononcée. Et si je puis dire, ça crève les yeux. Qui, en effet, peut dire « recouvre la vue, voit » à un aveugle, et la personne recouvre la vue, voit, maintenant. Le texte y insiste, c'est peut-être l'expression qui revient le plus. « Seigneur », c'est la fin du texte, « Seigneur, que je recouvre la vue, et aussitôt il recouvrit la vue. » Ce qui fait qu'à la fin de l'histoire, du récit, de l'épisode qui s'est passé, deux regards auront évolué. D'abord celui de l'aveugle qui voit, qui suit Jésus, qui loue Dieu, et aussi celui de la foule, qui loue Dieu aussi. Et j'attire votre attention au passage, c'est un détail du texte, mais je trouve qu'il traduit bien ce qui est en train de se passer. Le récit aura aussi évolué, aura accompagné le mouvement. Tout au début du texte, un aveugle était assis, entendant le bruit de la foule, il demanda ce que c'était, on lui répondit, il se mit à crier. Donc c'est le vocabulaire de l'écoute, c'est le registre de la sonorité. Entendre, demander, répondre, crier, faire taire. Et ce n'est qu'à la fin du récit qu'il est question de voir. Trois fois, donc, recouvrer la vue. Et puis le peuple voyant cela. Donc on est passé dans le fil du récit du son à la vue. Le lecteur aussi est passé du son à la vue. De l'entendre au voir. Et il y a un personnage qui est resté un peu comme insaisissable, c'est Jésus. Puisque le récit ne dit rien sur la façon dont il est affecté, lui, par ce qui se passe. Et du coup, nous qui entendons ce récit, ou qui le voyons, qui le disons, comme les disciples qui n'y voyaient pas clair, on peut peut-être en rester à ce questionnement que la proximité, justement, avec le texte précédent, avec laquelle la proximité... Enfin bref, le texte est proche d'un texte, et ça nous rend sensibles à la chose suivante. Comment cet homme qui a de tels pouvoirs, qui donne ce que les hommes ordinaires ne peuvent pas donner, comment peut-il avoir dit qu'il allait être mis à mort ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, et nous qui voyons ces mots, qui les entendons, qui savons la suite de l'histoire, qui savons bien qu'il a été mis à mort ? Alors j'ai envie de dire que comme il y a 2000 ans, toute une foule de voix peuvent s'élever et se dresser encore entre nous et Jésus. Faire obstacle. Déjà, j'ai dit, comme il y a 2000 ans, mais voilà, c'était il y a 2000 ans quand même, hein, c'était pas hier. Hein. Et je vois vraiment pas en quoi ça peut me concerner. Eh bien non, mais en quoi ça te concerne ? Ça peut être, tout ça c'est comme un conte, hein, c'est une histoire, on a lu une histoire ce matin à l'église. C'est un peu comme Bambi. Petite sirène, le chat beauté, et puis des trucs plus d'actualité, excusez-moi, j'en suis resté à ce qui a bercé mon enfance. C'est pas vrai, j'ai pas vu Bambi encore d'ailleurs. On m'a dit que c'était très triste. Mais voilà, c'est un conte, c'est du prêt à rêver, c'est tout. C'est du toc, la religion, c'est l'opium du peuple. Ou bien on peut dire devant une histoire comme celle-là, mais voyez bien, c'est même la Bible qui le dit. La foi chrétienne, elle s'adresse aux infirmes, elle s'adresse aux aveugles, elle s'adresse aux petits. Enfin, bref, à tous ceux qu'on peut tromper. Facilement. Et on pourrait dire, c'est peut-être ce que la foule disait, mais à quoi bon se tourner vers Jésus? T'as pas besoin de lui, tu peux te débrouiller tout seul. Aide-toi, le ciel t'aidera. Quelques cours de développement personnel, de communication non violente, et hop, c'est bon, tout est joué. Ou bien, même si Dieu, si Jésus existe, ils sont vivants aujourd'hui, bon, franchement, comment est-ce que je peux les intéresser, moi? Vous savez, le Dieu qui a créé tout l'univers, là, le grand truc, les galaxies, l'infiniment grand. Mais franchement, moi, écoutez, ces petits joueurs, moi, parmi les 7,7 milliards d'êtres humains qui sont vivants en ce moment, qui respirent le même air que nous en ce moment, franchement. Et je ne parle pas de ceux qui ont précédé pendant les 2000, 3000, enfin toutes les années qui ont précédé. Je suis une sous-molécule, pour ne pas employer un langage plus... L'insignifiance incarnée. Mes problèmes, qu'est-ce que c'est à l'échelle de l'univers et Dieu? Dieu, quoi ça l'intéresse? Ou bien qu'est-ce qui me dit que la foi chrétienne est la bonne voie? Enfin bref, je peux continuer comme ça pendant très longtemps, parce que la foule est... Et c'est probablement ce qui s'est passé pour l'aveugle. Il y a une personne qui lui dit maintenant, tais-toi, puis il y a un deuxième qui dit, oui, mais tais-toi, franchement, t'intéresses personne. Et l'autre dit, tais-toi, tu vas déranger Jésus. Enfin bref, la foule des objections a grandi, des questions a grossi, et elle s'interpose, elle tente de s'interposer. Et tant est si bien que devant la foule des objections, parfois on se sent très, très démuni. Et d'autant plus que dans la plupart du temps, en tout cas les objections, c'est très facile à énoncer en deux, trois phrases. Mais pour les débouter, pour y réfléchir, ça prend un peu plus de temps. Pas toujours, hein. Dans le texte, j'en reprends une au passage. La foi chrétienne s'adresse aux infirmes, aux petits. Dans le texte lui-même, quand on lit la suite, on a le récit de Zachée qui montre qu'elle s'adresse aussi aux riches et qu'elle s'adresse aussi aux bien portants. Donc l'évangile, c'est pas pour les malades, rassurez-vous, il y en a pour tout le monde, ça, en l'occurrence. C'est pas que pour ceux qu'on peut manipuler, c'est aussi pour les personnes qui peuvent et qui veulent bien réfléchir, se laisser interroger, se laisser impacter par la rencontre de Jésus. Et c'est pas que pour les malades. Aujourd'hui, comme il y a 2000 ans aussi, c'est probablement pas que le propos des incroyants ou des sceptiques qui font obstacle. Parce que dans le récit, c'est pas eux hein, qui leur disent, mais non, de toute façon, Jésus, il n'existe pas. Tu entends quelqu'un qui passe, mais il n'existe pas. Non. Dans le récit, ce sont ceux qui suivent Jésus qui font obstacle. Qui viennent s'interposer devant celui qui est en recherche. Et il n'est pas rare, en tout cas si j'en juge les témoignages que j'ai entendus, les échanges que j'ai pu avoir, qu'une personne soit en appel du Christ, soit en recherche de Dieu, mais que ceux qui croient au Christ, sans le vouloir probablement, lui mettent un peu des bâtons dans les roues et lui compliquent un peu la démarche. On peut faire sentir, par exemple, qu'il n'est pas politiquement correct, qu'il n'est pas habillé comme il faut, qu'il a plein de choses à régler. Oui, c'est bien, mais bon, t'as plein de choses à régler d'abord. Voire même, le récit en témoigne, juste avant aussi, dans le même chapitre de Luc, qu'il est trop jeune. Ce sont les disciples qui sont bien intentionnés quand on veut amener des enfants à Jésus. Ils disent non, faut pas importuner le maître, laissez les enfants un peu à distance. Que se passe-t-il pour celui qui rend visite à une communauté chrétienne, ou bien qui est le voisin, l'ami de ceux qui professent la foi? Qu'est-ce qui se passe à leur contact, à notre contact? Quand il voit par exemple qu'on lui parle avec ce que je peux appeler un sourire totalitaire. C'est le sourire, tu es le bienvenu, mais c'est la main de fer dans le gant de velours. Là encore, il y a des personnes pour qui c'est tout à fait l'attitude ajustée. Pour qui la fermeté est quelque chose de parlant. Enfin, j'ai des personnes qui ont des convictions. Ça fait du bien d'en voir. Voilà. Que se passe-t-il quand il sait déjà, avant même d'avoir ouvert la bouche, qu'il est dans la case qu'il n'est pas dans la bonne case, celle des clairvoyants, des voyants clairs, des vrais disciples. Je repense, je cherche là dans ma tête, je sais pas du tout. anticipé, mais au poème qu'avait écrit un de mes amis. C'est quelque chose comme ça. J'ai pas le bon terme, ça m'ennuie. Nous les bien pensants, un truc de ce style-là. Nous avons les yeux tournés vers le il était catholique, il est décédé maintenant. Les yeux tournés vers notre mi-ciel ou les yeux tournés vers le ciel, nous avons la satisfaction d'être de la vraie religion. Et puis il dit au bout du compte, si nous aurons peut-être la surprise de voir tout un tas de prostituées qui nous passent devant. Donc, finalement, c'est ce que dans l'Évangile Jésus accueille. Voilà. Il peut nous arriver de mettre obstacle à la foi chrétienne, et le reproche, je l'ai entendu donc à plusieurs reprises. Et pour ce qui me concerne, je suis pas en train de vous jeter la pierre, pour ce qui me concerne, en lisant ce récit, j'ai peur d'être moi-même à bien des reprises, ou à quelques reprises au moins, celui qui précisément n'aide pas, se dresse consciemment ou inconsciemment entre celui qui veut crier à Jésus et puis Jésus lui-même. D'être un obstacle qui complique le passage de l'entendre au voir. Et en fait, j'ai parlé de peur, mais c'est pas une peur, c'est une certitude. Je vois bien, puisqu'il m'arrive que cela m'ait été dit, que pour certains, ma façon d'être, ma façon de parler, ma façon d'écouter a constitué une aide. Et je vois bien aussi que d'autres auraient été contents que je ne sois pas là pour les aider. Je les aurais aidés en n'étant pas là. Et je sais bien qu'il serait bien commode pour moi de leur envoyer leur responsabilité en disant « C'est parce qu'ils voulaient pas écouter, en fait. » Moi, j'étais comme il faut, hein. Mais ils voulaient pas écouter, donc. Ils étaient hermétiques. Hein. Ouais. Et c'est là que je suis touché. Et que je reste, en tout cas, très, très frappé. C'est cet élément-là sur lequel je veux rester maintenant. Devant l'élan de cet homme et son appel. Devant l'intensité de sa démarche, d'une part, devant le regard qu'il a de lui-même et le regard qu'il a de Jésus. Ce regard d'un aveugle, ce regard qui l'amène à se lever, qui l'amène à crier, à persister, à insister, alors même que tout le monde vient s'interposer, vient interposer des objections, vient lui demander « Reste assis maintenant, tais-toi, on t'a compris, c'est bon ». De lui proposer peut-être d'autres façons de faire. Oui, mais on en parlera après. Attends, laisse-le passer. Puis peut-être, j'en sais rien, je sais pas ce qu'ils ont dit. Mais lui, on ne le découragera pas de crier à Jésus. Et il y a quelque chose là qui me touche. Alors en même temps, on pourrait dire c'est pas si singulier que ça, parce que si vous avez eu affaire à des personnes handicapées ou âgées qui avaient une idée dans la tête, et c'est vous le soignant, et il faut pas qu'il se lève, mais il va se lever, hein, de toute façon, vous pouvez faire ce que vous voulez, et voilà, donc quand il a la tête, il a pas ailleurs, et l'idée est obstiné comme c'est pas possible, donc c'est pas... Mais c'est cette obstination qu'il a, et va dans le bon sens, et on ne découragera. Et pour ma part, avec ça, ce que je voudrais vous proposer ce matin, je crois, en tout cas c'était ma prière en méditant ce texte, je l'ai lu pendant les vacances là, je voudrais être un peu comme cet homme qui crie, « Seigneur, aie pitié de moi ». Et je vais le dire en jeu, et ce jeu, ça me concerne, mais c'est un jeu auquel vous pouvez vous associer, qui pourrait être le vôtre si vous voulez. Donc parce que ce récit me donne ou me redonne à voir que Jésus n'est pas comme un homme ordinaire, ou n'est pas un homme ordinaire, ou parce que quelque chose me le donne à pressentir, c'est les réactions de chacun, certains pour qui c'est apparent et d'autres, ils sentent bien quelque part qu'il y a quelque chose là, il y a quelqu'un là. Parce que quelque chose que je ne sais pas identifier, et encore moins expliquer, quelque chose m'a conduit, m'a poussé peut-être à être là ce matin. C'était pas forcément prévu, mais je suis là. Ou peut-être parce que je crois que Jésus est le fils de David, qu'il est mon Seigneur et mon Dieu. Et cela même si je traverse des tourments, la dépression, voilà. Donc, où que je sois entre cette espèce de conviction ferme, oui, je le sais déjà, voilà, ou bien cette intuition simple, que si quelqu'un peut répondre à mon appel, à mon besoin, à ma soif, à ma soif de guérison peut-être, ou bien de sens à ma vie, s'il y a quelqu'un comme ça, c'est bien Jésus. Et ce récit en témoigne. Donc, où que je sois dans ces possibilités, je veux être comme cet homme-là. Et je veux résister à l'obstacle que risque de constituer mon entourage, ces menaces. Ça peut être des menaces. si tu deviens chrétien, on va s'occuper de toi, on va s'occuper de ta famille. Ces propos, avec toutes les objections que j'ai listées, puis il y en aurait tant d'autres encore, ou bien tous les comportements qui font repoussoir, et je veux résister même aux objections qui peuvent s'élever à l'intérieur de moi, quand j'entends bien ce qu'il faut faire, là où Dieu m'appelle, et puis qu'il y a autre chose en moi qui dit « Non mais attends, il faut réfléchir, de quoi t'auras l'air si tu deviens chrétien ?» D'abord, franchement, ils vont tous rigoler, ça va pas le faire. De quoi t'auras l'air si tu vas dire que t'es démuni, etc., etc. Je veux résister à ça et je veux persister. Je veux insister dans ma recherche, dans mon appel, dans mon cri. Confiant que celui à qui je m'adresse est en mesure de l'entendre et de me rejoindre même s'il n'est plus là physiquement. Et je ne sais pas, peut-être pas très bien, ou je sais très bien, donc là aussi, je peux en être convaincu ou en avoir simplement l'intuition. D'où me vient cette idée qu'au bout du compte, je ne peux en appeler qu'à la pitié de Dieu, qu'à la grâce de Dieu. Mais je veux le dire, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Je suis frappé que quelques lignes avant ce récit, il y ait cette comparaison, c'est une histoire que Jésus raconte, entre deux personnes. Il y a d'un côté cet homme religieux qui est fier de ses actes de piété. Lui, il fait les bons gestes religieux. Il va à l'église, lui. Il donne son argent, lui. Il a mis de l'argent tout à l'heure. Et il fait ça régulièrement, lui. Pas comme... cet autre-là, cet autre qu'il toise hein, du haut de sa religiosité. Donc contraste entre cet homme et puis cet autre-là, qui lui n'ose même pas lever les yeux. Et c'est là que je suis touché et qui s'en tient à des propos qui sont extrêmement proches de ceux que prononce l'aveugle ici. Il dit, oh Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Aie pitié, disent l'un et l'autre. Et je veux ressembler à cet homme qui garde la mesure de ce qu'il est et de qui Dieu est. Seigneur, aie pitié de moi. Et même chrétien, j'imagine pour tous ceux qui sont familiers de la foi, je ne vous apprends rien ce matin. J'étais parti avec l'idée de vous apprendre quelque chose. Ben non, pas bon. Même chrétien, c'est ce cri que je veux garder au cœur. Que je ne suis que ce cri qui traduit ce qu'est ma place, ce qui est celle de Jésus. Que je ne suis qu'un être humain. Et que même chrétien, je reste un être humain. Et que j'ai besoin au plus profond de moi-même, pour être humain, de quelqu'un qui me donne plus que ce que peut donner un être humain. Et ce quelqu'un, qui d'autre, qui peut mieux le faire que Jésus ? Alors je veux crier aujourd'hui encore, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Et tout ce récit, et puis ceux qui l'entourent, parce que j'en ai évoqué d'autres, c'était donc pour le faire sentir aussi, m'amène à mesurer que c'est de cette façon-là, et de cette façon-là seulement, a priori, que je pourrais passer de l'audition, simplement entendre, à la vue, par la pitié de Dieu, par sa compassion, par sa grâce, à l'écoute de sa voix, à l'écoute de sa parole, et au bénéfice de l'action de cette parole. C'est comme ça que je pourrais passer de l'entendre au voir. Je termine en disant qu'un cheminement vers cette posture me paraît incarné, dans une part au moins, par des éléments de piété orthodoxe. Orthodoxe, je pense à l'orthodoxie orientale, enfin voilà, à la branche du christianisme qui est l'orthodoxie, catholicisme, protestantisme, orthodoxie. Alors c'est pas des choses très peut-être familières pour beaucoup d'entre nous. Et dans ce qu'on appelle le mouvement, je vais prononcer un mot technique, attention, accrochez-vous, voilà, si vous comprenez rien au mot, c'est pas grave. C'est le mouvement hésicaste. Bon, c'est quoi cette bête ? Le mot veut dire le repos. Mais peu importe, ça n'a pas de lien avec mon propos. Donc le mouvement hésicaste qui cherche à faire des pas dans cette direction-là, à a endossé la posture de cet homme qui crie à Jésus. Et c'est ça qui m'intéresse, cette démarche de chercher à entendre ce cri, à le faire encore mien, à choisir de le faire mien, de continuer à le faire mien, même si je suis chrétien depuis 35 ans, et que tout ça, je le sais déjà. Et pour ça, le mouvement Hésychast a mis à contribution un autre sens. On a parlé de l'entendre, on a parlé de la vue, et ils ont cherché à mettre à contribution le respirer, le sentir. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. La piété Hésychast a associé à intégrer cette prière au rythme de la respiration. Seigneur Jésus, sur l'expirer, aie pitié de moi. Seigneur Jésus. Ça, c'est répété, ça fait un peu mantra. Hein, voilà. Mais ça, voilà, après, c'est la question de l'attitude aussi dans laquelle on se positionne. Donc, mon propos n'est pas de nous inviter à entrer dans cette pratique. Ça peut paraître un peu déroutant. Bon, ça peut se discuter. Mais donc, si j'en fais mention, c'est que j'aime cette posture. Seigneur Jésus, aie pitié de moi, pécheur, associé à chaque respiration. Tant et si bien que quand ce rythme est intégré et qu'on est habité par ça, c'est pas juste pour le refaire, comme on fait un mouvement sans y réfléchir, c'est à chaque respiration, c'est à chaque souffle que je suis en prière, que je suis tourné vers Dieu, que je suis en mesure de moi, de ce que je suis, et en mesure d'à qui je m'adresse. C'est à chaque respiration que je suis prière. À chaque respiration, à chaque souffle, envers et malgré tout, malgré mon entourage et malgré moi-même, que nous soyons seuls ou que nous soyons dans la relation avec les autres, je nous invite, soyons de ceux qui sont dans cette posture-là, qui incarnent cette posture, ce cri. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Je vous invite juste au silence. Dans le silence, je vous invite, si quelque chose dans ce que j'ai vous proposé fait écho, si Dieu s'est servi de quelque chose là ce matin. Donc voilà, en tout cas, laissez retentir ce texte, le commentaire, si vous le souhaitez, ou simplement le texte. Voilà, qu'est-ce qui fait écho pour vous, si quelque chose fait écho? Vous le dire à vous-même, l'entendre. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, fais que je puisse voir. Ouvre nos yeux, Seigneur, à toi.